8h53, un beau jeudi ensoleillé, c'est ce qu'on a présentement. Profitons-en. Environnement Canada qui s'est ravisé ce matin, Jeff. On nous parlait d'un 4-5 degrés pour ce qui est d'aujourd'hui. Le mercure pourrait monter aujourd'hui à 12 degrés.
Oh yes!
C'est la bonne nouvelle. Ça sent la moto. On est toujours à 1 degré actuellement. Le vent semble quand même assez tranquille, donc c'est pas trop froid. Sortez sur l'heure du midi, prenez un peu d'air. Ce soir, minimum de plus 3 degrés. Des probabilités d'averse pour ce qui est de ce soir et de cette nuit à 40%. Demain, même genre de journée, là, ce sera des nuages avec des probabilités d'averse aussi à 40%. La pluie qui devrait débuter en mi-journée pour nous quitter pour samedi matin, donc maximum de plus 5 pour vendredi. Et samedi, c'est la belle nouvelle. Samedi, c'est une alternance de soleil-nuages avec un maximum de 7. Et dimanche, ce sera des nuages avec un maximum de 8 degrés. Excellent article de Mélanie Marquis sur le site de La Presse. On nous parle de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est rare que je vous en parle de Gabriel Nadeau-Dubois, mais il parle d'un truc qui m'intéresse grandement, c'est-à-dire l'avenir de nos jeunes garçons. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'avant de tirer sa révérence, JND tire la sonnette d'alarme. C'est dans un livre, on dit un livre blanc qu'il fait paraître cette semaine. Il parle de l'école à trois vitesses et il accuse l'école à trois vitesses d'être en partie responsable des difficultés rencontrées par les garçons. Pour être plus précis, ce qu'on dit, c'est dans l'ouvrage intitulé « Ceux qu'on échappe », la ségrégation scolaire du système d'éducation québécois nuit davantage aux garçons, indirectement et directement. Pour ce qui est de l'indirectement, c'est parce que la non-mixité nuit toujours plus aux élèves plus faibles qu'aux plus forts et qu'il y a plus de garçons faibles que de filles faibles. Et directement, c'est les garçons qui sont les plus sensibles que les filles à la composition de leur classe et que leur réussite est donc davantage affectée par des conditions d'apprentissage difficiles des classes régulières du réseau public. Et ça, c'est ce que conclut Gabriel Nadeau-Dubois. On a le plaisir d'en parler avec un chercheur à l'Institut Cardus, Étienne Alexandre Beauregard, qui est avec nous ce matin. Salut, Étienne-Alexandre.
Salut, Yannick. Salut, Jeff.
Est-ce que tu es d'accord en partie avec ce que Gabriel Nadeau-Dubois mentionne, c'est-à-dire qu'on échappe en raison d'un système qui est à peu près à trois vitesses pour ce qui est de nos garçons à l'école?
Ben moi, je suis d'accord avec la première moitié du constat, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de problématique avec la manière dont les jeunes gars réussissent moins que les jeunes filles dans le système d'éducation. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait nous préoccuper tous. Puis d'ailleurs, c'était très bien que Marois Risky aussi, du Parti libéral, fasse un documentaire sur cette question-là pour qu'on commence à être plus sensibilisé puis se poser des questions. Cela dit, moi, je l'ai lu, son livre blanc, là, je l'ai passé la majeure partie de la journée d'avant-hier à faire ça. Et là où j'ai un problème, c'est de dire que c'est à cause qu'il y a plusieurs options dans le système scolaire. Je vais vous dire, honnêtement, moi, mon avis, c'est que c'est à peu près l'inverse. Parce que ce qu'on voit, quand on regarde les experts en pédagogie, les gens comme Égide Royer, qu'on est habitué d'entendre, ce qu'ils vont dire, c'est qu'une des raisons fondamentales pour lesquelles les petits gars réussissent moins, c'est que leur développement du cerveau arrive plus tard que les petites filles. Puis ça, d'ailleurs, on regarde les chiffres de l'OCDE, là, à 15 ans, dans tous les pays de l'OCDE, les filles réussissent mieux en lecture que les gars. Fait qu'il y a des choses qui sont des permanences qui existent dans tous les pays et qui sont certainement pas la faute du système, par exemple, d'école privée au Québec. Et là où on voit aussi que c'est problématique, c'est que quand on a une pédagogie à taille unique, hein, si on met tout le monde dans la même classe, ben on voit que le cursus est davantage orienté vers les manières d'apprendre qui sont plus prévalentes chez les petites filles. Par exemple, on va moins bouger, on va être plus concentré sur le travail académique. Alors que quand en général, en tout cas, il y a beaucoup plus de gars qui ne se retrouvent pas dans ce système-là. Et si on regarde aussi, par exemple, la proportion d'enseignants qui sont des gars ou qui sont des filles, si tu vas au primaire, là, selon les chiffres du gouvernement du Québec, c'est 86 % des profs qui sont des filles. Au secondaire, c'est plus que 60 %. Fait qu'il y a aussi la question des modèles pour les gars. Ça, c'est pas une affaire de public, de privé, de programme particulier. Puis moi, je vous dirais, tant qu'à moi, c'est l'inverse. Plus il va y avoir d'avenues différentes pour les petits gars qui se retrouvent pas dans la vitesse de base, mieux ça va être. Fait qu'à ce moment-là, le système avec plusieurs options, il est pas le responsable de nos problèmes, il est davantage une solution. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que le sport-études, par exemple, ça existe.
Oui. Bien, je regardais le taux de décrochage annuel selon le cheminement là, chez les garçons et les filles. C'est des chiffres qui ont été rendus publics par l'Assemblée nationale. Dans les écoles publiques, avec public régulier qu'on appelle, là, on est autour de 27-28 % le taux de décrochage pour les garçons, tandis que les filles sont à 20 %. Dans les publics avec partenariat public-privé, là, on est sous la barre des 10 % pour les garçons et les filles, mais encore là, il y a une majorité de garçons que de filles qui décrochent. Et si je regarde dans le réseau privé, on est aussi sous la barre des 10 %. Est-ce que la solution, selon toi, ce serait quoi? Parce que, tu sais, moi, je vais être très honnête avec toi, puis parfois, ça peut paraître cruel, là. J'étais pas parmi les premiers de classe en français, là. Je te le dis, puis j'ai dit à mes profs de français, jamais j'aurais besoin de français pour gagner ma vie. Finalement, j'ai besoin de mon français pour gagner ma vie. Mais, tu sais, je performais en mathématiques, je performais en sciences, je performais en histoire. C'est des domaines qui me passionnaient. Par contre, le français, j'avais un peu plus de misère. Donc, j'étais pas un premier de classe, mais je pense que dans une société, on doit prendre les premiers de classe puis les mettre ensemble pour qu'ils progressent plus vite ensemble. J'ai l'impression que, puis là, c'est là que ça devient cruel, quand il y a un maillon faible dans la classe qui retarde tout le monde, ça nuit au progrès de ceux qui sont peut-être un peu plus aptes à réussir leur école, t'sais.
Ben écoute, je pense qu'il y a un point là. Puis si on revient juste sur les chiffres que tu as mentionnés, ce que les chiffres de M. Nadeau-Dubois montrent, là, c'est qu'il y a plus de décrochage dans le public régulier que dans le public sélectif.
Mais il y a une logique à ça.
Ça, c'est pas surprenant.
Mais il y a une logique à ça parce qu'il y a une présélection des élèves.
Ben oui, mais ce qui est intéressant, puis ce que lui, il dit pas par ailleurs, c'est qu'il y a toujours un ratio d'à peu près 1,4 gars qui décrochent par fille qui décroche, et ça, peu importe la vitesse. Puis ça, moi, quand je vois ça, je me dis, ah, OK, bien d'abord, si, par exemple, le taux de décrochage des gars et des filles était égal au privé, puis qu'on voyait un gros écart au public, bien à ce moment-là, on pourrait dire, ah, OK, il y a quelque chose. Mais à partir du moment où il y a 1,4 gars qui décrochent pour une fille autour, peu importe la vitesse, bien à ce moment-là, on peut se dire que c'est peut-être pas ça le moteur principal. Puis je vais dire comme toi, moi, je pense aussi, effectivement, que pour aider les élèves à progresser, d'être avec des groupes ou avec des programmes qui parlent à leur sensibilité propre, ben, ça peut être intéressant. Cela dit, moi, où je rejoins M. Nadeau-Dubois, je trouve que sa première proposition de dire est-ce qu'on pourrait abolir le régulier pour faire en sorte qu'il y ait des programmes particuliers pour tous selon leur vocation, selon leurs intérêts, moi, je pense que c'est intéressant.
C'est génial. Prenons à plus petite échelle là, le football. Là. Combien de gars que j'ai rencontrés qui se sont ramassés pour le Rouge et Or parce que c'était leur rêve de jouer dans le programme football du Rouge et Or? Puis ces gars-là se sont rendus jusqu'à l'université en raison de leur amour pour leur sport. Il y en a beaucoup des gars de même, là.
Ben oui, je suis d'accord avec toi. Puis on peut se poser la question, s'il n'y avait pas eu de sélection selon les notes, est-ce qu'il y aurait peut-être l'effort pour avoir les notes? Mais cela dit, où il y a de la sélection selon l'argent, moi, je comprends l'inquiétude de M. Nadeau-Dubois par rapport à ça. Puis je pense qu'on devrait tous quand même avoir un malaise aussi quand on regarde là, dans le réseau public des programmes qui coûtent 1 000, 2 000 $. Puis d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que le gouvernement du Québec, dans les dernières années, a mis un premier montant de 300 $ pour couvrir un premier 300 sur les programmes particuliers. Puis à ce moment-là, effectivement, si on veut travailler davantage au niveau d'un pluralisme qui est plus égalitaire, moi, je pense que ça a de l'avenir, ça, l'idée de voir, OK, comment chacun peut trouver sa place dans des programmes particuliers. Mais la solution, c'est certainement pas de niveler vers le bas en ramenant tout le monde vers la même classe. Là. Je pense pas que c'est vers là qu'on devrait aller, sachant que c'est ces avenues différentes-là qui motivent les gens.
T'sais. Non, t'as entièrement raison. Puis les écoles aussi ont un montant plus élevé au niveau du parascolaire qui peuvent réinvestir dans des sports. Je vais prendre l'exemple de la polyvalente de Charlebourg. Ils ont réinvesti ça justement dans le football. Fait que ça permet à n'importe quel jeune, qui soit dans le milieu défavorisé ou non, d'accéder au programme de football, parce que le programme de football est sans coût. Donc, il y a des décisions organisationnelles aussi, des directions d'école qui peuvent venir aider énormément de garçons à l'école. Je le sais, mon gars fait partie de la polyvalente de Charlebourg, puis ça l'a aidé en crime à être au football.
Ben oui. Puis moi, je vais vous dire, là où j'ai un problème avec l'argumentaire de Québec solidaire, c'est qu'encore une fois, ça devient une espèce de croisade contre les écoles privées subventionnées. Et puis ça, on est un peu habitué venant d'eux. Là. Des fois, on croirait que c'est une solution qui est un peu à la recherche d'un problème, là, comme c'est un peu la solution magique à tout. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que beaucoup des programmes particuliers qui maintenant sont au public puis rejoignent même plus de la moitié des élèves du secondaire, si on en croit les chiffres du gouvernement, ça a commencé au privé. C'est eux qui ont amené ça en premier, les sports-études, les arts-études, puis après, c'est parce que c'était populaire que le public l'a adopté. Puis d'ailleurs, quand M. Nadeau-Dubois dit ça dans son mémoire, parce qu'il le reconnaît, on voit qu'il dit en grinçant des dents, en disant « Ah, c'est la compétition, c'est la logique de marché, j'aime pas ça », mais au contraire, il y a une forme d'émulation qui, pour moi, est extrêmement positive. Ouais. Puis quand tu vas avoir des nouvelles innovations comme ça qui vont arriver, par exemple pour les élèves à besoins particuliers, puis on le voit, là, ça commence à arriver au privé, des écoles qui ont 40 % et plus d'élèves à besoins particuliers, qui qui donnent un accompagnement qui parfois permettent de passer son secondaire en 6 ans au lieu de 5 avec un accompagnement adapté. Toutes sortes de choses qui sont super intéressantes, qui pourraient aussi être éventuellement adaptées par le public. Et moi, je pense que si on va mettre la hache dans ce laboratoire-là qui a donné des résultats pour l'ensemble du réseau quand ces innovations-là sont adaptées au public, ben on perd quelque chose, puis je ne sais pas exactement quel problème on vient régler avec ça.
Ben, je suis d'accord avec toi, puis en plus, tu sais, je vais faire une comparaison justement parce qu'on compare souvent le privé puis le public en santé, mais je vais le faire aussi en éducation. Au privé, là, il y a les donateurs. Les donateurs privés. T'es allé à l'école, là, puis là, je vais donner un exemple classique. T'es allé à l'école Saint-Jean-Eudes ici, dans la région de Québec. T'as fait carrière en business. Tu vas redonner à Saint-Jean-Eudes pour leur nouveau terrain de football. Mais au public, on le voit pas, ce financement-là, alors que les directions d'école, les centres de services scolaires devraient le faire. Il y a des gens qui sont passés par le public qui ont beaucoup d'argent puis qui pourraient donner à leur école de quartier.
Ah, t'as raison. Ça, c'est beaucoup quelque chose. On peut parler, hein, de l'effet école au privé, parce que une des prémisses aussi du raisonnement un peu de ceux qui s'opposent à ça, c'est de dire, bon, il y a pas d'effet vraiment d'être dans une école différente pour améliorer la performance des jeunes. C'est juste des gens qui étaient déjà bons, qui étaient déjà riches ou quoi que ce soit. Puis ça fait un espèce d'effet élitaire de ghetto quasiment. Là. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que des gens qui ont de la difficulté vont souvent mieux réussir quand ils ont un accompagnement qui est adapté.
Exact.
Ça, c'est quelque chose que le public n'est pas capable de donner. Puis ça donne aussi l'effet école au privé. C'est aussi un sentiment d'appartenance. Puis je pense que c'est ça que tu viens de décrire, Jeff. C'est que quand tu as une école qui a une identité forte, qui a un sentiment de communauté, bien, c'est sûr que ça va te marquer pour toute ta vie. Puis après, tu vas dire, hey, j'aimerais ça redonner à ça. Puis ça, c'est quelque chose de positif qu'on devrait avoir partout dans le réseau, à mon sens.
Effectivement. Étienne-Alexandre Beauregard, je ne peux pas faire abstraction du fait que tu as écrit les discours de François Legault pendant quelques temps. Quand tu avais annoncé ton départ, on en avait parlé dans l'actualité. Là, actuellement, il y a une course à la chefferie à la Coalition Avenir Québec. As-tu une opinion sur la course à la chefferie? Est-ce que tu as regardé ça avec grand intérêt?
Ben, c'est sûr que j'ai suivi. Puis d'ailleurs, je vais être là à Drummondville dimanche pour voir les résultats. Je pense même que je vais vous parler à cette occasion, oui. Si ma mémoire est bonne.
Bien sûr, 15h30 dimanche.
Yes, monsieur. Mais considérant que maintenant je suis dans un rôle plus non-partisan, je n'ai pas vraiment pris position sur la course. C'est sûr que j'ai regardé. Je pense qu'on a deux propositions, deux styles qui sont différents. Là. Un style qui est un peu plus technocratique, un style qui est plus proche du monde, proche de la base du parti aussi. J'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser. Mais pour moi, l'histoire de la course, franchement, c'est quand même celle de la remontée de Bernard Drainville. Là. Je veux dire, depuis le début, on le donnait perdant. Au début, il y en a même qui disaient, mon Dieu, est-ce qu'il va faire 30% des votes, ouais. Parce que toutes les ministres vont derrière Mme Fréchette et tout. Mais finalement, on dirait que c'est quasiment le seul qui a fait campagne. Il a mis des idées de l'avant, il a été fort au débat, il a été capable de relever la courbe de telle sorte qu'aujourd'hui, moi, mon avis sincère, c'est qu'il n'y a pas personne qui va gagner avec plus que 60%. Là. Moi, je pense que ça va se jouer dans les 50 d'un côté ou d'un autre. Entendu ici en premier, je pense que ça va vraiment être plus serré qu'on le pense.
Ce matin à Boulevard, moi et Jeff, on s'est prononcé. J'étais encore dans le 30-70.
Ouais, moi j'étais dans le 55-45, Madame Fréchette.
Effectivement. Là, toi, tu me dis que ça va être un peu plus serré qu'on pense. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dimanche. Puis tu vas avoir une émission spéciale, Jeff, sur nos ondes.
Oui, exactement. À compter de 15h avec Antonine Iacarini, Mathias Turcotte va être directement sur le terrain. Étienne Alexandre va en faire partie. On a Victor Enriquez, Alicia Despins aussi, et des entrevues avec une multitude de politiciens, dont trois chefs d'opposition qui ont confirmé leur présence, Charles Milliard, Sol Zanetti et Éric Duhaime.
Étienne-Alexandre Beauregard, tu as rédigé les textes de François Legault pour ses discours. Donc, pour toi, les mots sont hyper importants. Lequel des candidats à la chefferie était le plus clair dans ses propos?
Ah ben là, si la clarté, c'est le critère, je pense qu'il faut le donner à M. Drainville, tu sais, dans le sens que c'est quelqu'un qui parle de manière très franche, très carré, au risque de marcher sur des orteils à l'occasion, mais avec lui, je pense qu'on connaît leur juste. T'sais. Puis à l'inverse, bon, Mme Fréchette a été critiquée un peu pour son style un peu technocratique, de passer par quatre chemins, de parler avec des mots à 100 000 piastres, alors que souvent, c'est pas ça qui va résonner avec les citoyens. Fait que, encore une fois, c'est une différence de style. Il y en a qui aiment mieux ça. Il y en a qui préfèrent ça, trouvent que ça fait plus sérieux, plus proche du milieu des affaires, qu'en sais-je. Mais à l'inverse, il y en a qui aiment mieux quelque chose de populaire au risque d'être populiste et qui livre le message de manière très compréhensible pour tout le monde. Donc, si c'est le critère de la clarté, c'est clair que M. Drainville l'emporte.
Puis qu'est-ce que les jeunes trouvent en Bernard Drainville à la Coalition Avenir Québec? Parce que ce qu'on nous dit, c'est que l'aile jeunesse semble être derrière Bernard Drainville. Là. Quelle est cette faculté-là à Bernard Drainville d'unir les jeunes ensemble pour sa cause versus celle de Christine Fréchette qui semble un peu moins accessible pour les jeunes?
Oui, bien ça, moi, évidemment, je connais beaucoup de jeunes de la CAQ pour les avoir côtoyés pendant des années. Puis effectivement, ils sont en vaste majorité derrière M. Drainville. Je pense à cause de la clarté des principes. T'sais, quand M. Drainville a annoncé sa candidature, il l'a dit clairement, il dit, moi, je suis pas là pour dire continuons. Je veux qu'on retourne à nos valeurs, qu'on retourne aux nationalistes, qu'on retourne au centre-droit. Puis bon, moi, de ce que je connais des jeunes caquistes, il y en a beaucoup qui ressentaient ce besoin-là, qui sont plus portés par des idées, par des convictions. Puis qu'ils ont vu ça vraiment en lui. Puis je pense que c'est un peu le pitch de sa candidature aussi, là, de dire je vais reconnecter avec notre base, notamment dans la région de Québec, pour être sûr que cette famille politique-là ait un avenir. Puis c'est sûr, si on se met à la place de jeunes, encore une fois, que souvent, on commençait à militer à la CAQ, quand ce n'est pas des anciens péquistes ou des anciens libéraux, c'est leur premier parti. Eux, ils veulent savoir, ils veulent dire, OK, mais la CAQ, ça va-tu encore exister dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans? Puis pour ça, je pense qu'ils désirent quelqu'un qui a des principes clairs, puis qui connaît vraiment l'ADN, puis les valeurs profondes de leur famille politique. Je pense donc que c'est ça qu'ils vont retrouver en Bernard Drainville. Moi, ceux qui me disent qu'ils l'appuient, souvent, c'est pour ça.
Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardus, ben, on se dit à dimanche, cher ami, pour l'émission spéciale à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Donc, je vous rappelle que dimanche, la personne qui va être choisie chef, que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drainville, va devenir automatiquement premier ou première ministre du Québec. Donc, c'est un événement qui est très important. Puis, salutations à toute la gang qui va être en onde cette journée-là. Vous êtes un plus pour notre station. Puis, Étienne-Alexandre Beauregard, ben, je te souhaite de passer une super de belle journée. Un gros merci d'être passé.
Ben, merci à vous aussi.
Salut, hey, salut, bonne journée.
Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardus. Franchement intéressant, là, la discussion sur le livre blanc de Gabriel Nadeau-Dubois sur les jeunes. Je trouve ça très, très, très pertinent. Puis étant propriétaire de deux êtres humains masculins,
ouais, moi aussi.
Je suis Isaac, ben, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de mes gars. Qu'est-ce que je vais leur laisser? Ça va être quoi le legs de ma génération que je vais laisser à ces jeunes-là? Je ne sais pas si c'est notre génération qui sommes un peu plus conscients. Je vais être cruel là, pour les gens qui nous ont quittés ou pour les gens du troisième âge qui sont autour de 80-90. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'eux ne pensaient pas aux générations futures parce que les besoins, c'était là, c'était ici, maintenant. Il y avait la vie dure puis ils voulaient améliorer leurs conditions. Mais je regarde l'état actuel du Québec, puis c'est drôle parce que ça fait quoi, 10-15 ans là, que j'étais à Radio de Québec, depuis 2011 que j'étais à Radio de Québec. Et j'ai toujours parlé de ce fameux legs-là que je veux laisser aux générations futures. Puis il y a Patrick Lagacé un matin qui vient de se réveiller, qui parle d'un champ de ruines.
Ouais, en effet.
Mais Patrick Lagacé, il anime au 98.5. Ouais. Okay? On lui a donné la job de Paul Arcand, là. Il milite pour ce système-là depuis des décennies des décennies. Et là, tout d'un coup, il s'en revient. Chris, tout est à terre.
Exactement.
Je vais pondre un texte pour dire que tout est à terre.
Ben non, mais puis toi, tu fais de la radio depuis 15 ans. Moi, j'ai été dans le domaine communautaire, puis ça fait ça, là. 15-20 ans que je regarde l'état de nos écoles pour venir à l'éducation, là. Puis je fais, ben voyons donc, je peux pas croire que c'est comme ça. Puis en passant, Étienne-Alexandre a raison, faut pas niveler par le bas.
Jamais.
Moi, mes gars ont été dans le public, dans des programmes de football, les deux. Sans le football, je ne sais pas si on leur DES.
Ils auraient peut-être été des décrocheurs.
Ils auraient peut-être été des décrocheurs. Ce ne sont pas des gars qui sont attirés c'est par ça. L'école naturellement. C'est des gars qui bougent, des gars qui ont besoin de faire des projets, c'est des gars qui ont besoin d'être actifs.
Là, on parle de sport, mais ça peut être la musique aussi.
Ben oui.
Toute forme de passion qui
exactement.
Va être induite à l'école.
Oui.
Puis que tu vas pouvoir pratiquer ta passion à l'école va t'accrocher nécessairement à cette école-là. Les étudiants en théâtre, là, on s'entend-tu que c'est pas des gens qui font 250 000 par année, mais le théâtre fait en sorte, ou l'impro, fait en sorte que les jeunes vont aller à l'école parce qu'ils trippent.
Je suis allé faire une conférence au Collège Champigny. J'étais dans l'auditorium. Après la conférence, c'est 6 jeunes qui arrivaient pour pratiquer leur spectacle de musique qu'ils allaient faire dans 2 jours. Ben, ces 6 jeunes-là de secondaire 5, j'en ai parlé à 2-3 puis ils m'ont dit « sans la musique, je sais pas, je suis ici aujourd'hui ». Pas chez mon DS.
9h12, 418-971-101, si vous voulez nous contacter, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. C'est par texto. On fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau le matin.